France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, il fallait faire très attention avec les dieux. Ils étaient grands, forts, immortels. Ils étaient parfois aimants, généreux, aidants, si on savait les prier comme il faut et leur adresser les bons sacrifices. Mais ils étaient aussi très capricieux, comme des gosses. Ils avaient beau être grands, forts, immortels, comme doivent l'être des dieux et des déesses normalement constitués. Ils avaient une forte tendance à réagir comme nous, les humains. Ils étaient très susceptibles, jaloux, colériques, râleurs, mesquins. Si on ne les aimait pas assez, ils devenaient furieux, exactement comme nous. Nous, les humains, nous étions pour ces dieux des presque rien, des petits mortels voués à vieillir, puis à disparaître, tout le contraire d'eux. Mais ce que les dieux et les déesses aimaient le plus, c'était notre vénération, notre amour, avec en plus toutes les offrandes matérielles qu'on pouvait leur faire sur leurs autels, lors des sacrifices. Si un dieu se sentait négligé, c'était la catastrophe.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
En fait, les dieux dépendaient entièrement de nous, les humains. Ils nous regardaient d'en haut, depuis leur Olympe, ou au contraire d'en bas, depuis le fond des mers, ou depuis le fin fond de la terre. Et ils avaient du mépris pour nos faiblesses, pour notre incapacité à nous guérir de la mort. On les faisait rigoler. Tellement on est maladroit, malhabile, peu adapté à ce monde qu'ils administraient. Mais ils n'attendaient qu'une chose, qu'on leur rende hommage. Sinon, c'était la crise. Ils devenaient méchants. Les dieux aussi bien que les déesses. Mais même ça, ça les amusait. Ils y prenaient plaisir. Ils montraient par là qu'ils étaient vraiment les plus forts, eux, les dieux, bien heureux. Le problème pour les humains, c'est qu'il y en avait beaucoup de dieux et de déesses. Il fallait les aimer tous, ou les redouter tous, en leur faisant suffisamment d'offrandes pour qu'ils soient tous bienveillants. Il ne fallait pas en oublier, et on ne pouvait pas vraiment faire son choix et préférer tel ou tel autre. Si on aimait trop l'un ou l'une, une autre divinité pouvait se fâcher, pouvait se sentir lésée, alors elle tapait fort. Pas seulement pour nous punir, mais aussi pour faire la nique à l'autre dieu, à celui ou celle qui avait été trop aimé aux dépens des autres. Les dieux se vengeaient entre eux. Bref, ces dieux étaient comme nous. On pourrait se dire que tout ça, ça ne fait pas une vraie religion, que c'est infantile, un peu bébête. Ces dieux perpétuellement jaloux entre eux et vis-à-vis des humains. Il y a pas mal de philosophes de l'Antiquité qui ont pensé cela et qui ont protesté contre ces histoires monstrueuses de dieux mesquins, cruels, prêts à tous les vices. Des dieux beaucoup trop humains. Ils n'en voulaient plus. Ils voulaient des dieux parfaits, purs, vraiment divins. Mais Dieu merci, on ne les a pas trop écoutés pendant longtemps. En effet, ils sont vraiment intéressants ces dieux et utiles. Comme ils sont toujours en rivalité les uns avec les autres. Comme ils ne se font pas de quartier, sauf quand ils se réunissent pour faire la fête et boire et chanter dans l'Olympe. Ils nous rappellent ce qu'est le monde. Ils nous rappellent qu'il est complexe, difficile, opaque, traversé de forces contradictoires, en opposition les unes avec les autres. On ne peut pas vivre, agir dans ce monde avec des idées trop simples, trop fermées. Il y a toujours un dieu quelque part qui peut vous réserver une mauvaise surprise. Il faut tout envisager, accepter que la réalité ne peut pas se comprendre d'un seul point de vue. Dans ce monde gouverné par les dieux, les humains devaient avoir une intelligence multiple, une intelligence nombreuse, comme dit le poète Homère à propos d'Ulysse, ce héros vif et tournoyant qui a toujours su s'en sortir. Cette rivalité entre divinités est bien ce qui a mené à sa perte la famille du grand héros Thésée. Le fort et très beau Thésée, dont nous avons commencé à suivre la fabuleuse histoire dans les épisodes précédents. Histoire fabuleuse, mais qui montre aussi les faiblesses de ce grand homme, Thésée, qui n'a pas toujours eu l'intelligence fine et multiple du merveilleux Ulysse et qui s'est souvent cassé la gueule par ses propres fautes. Thésée était un immense héros, que la ville d'Athènes adorait, malgré ses défauts. Athènes en a fait son roi mythique, son véritable fondateur, son idole. Thésée était chéri des dieux, et notamment de celui qui passait pour être son père, le dieu Poséidon, dieu de la mer. Il a accompli de grands exploits. Il a estourbi toute une série de gens très méchants, qui maltraitaient leurs semblables, toute une série de bêtes féroces et monstrueuses, comme le gros taureau qui dévastait le pays de Marathon, au nord d'Athènes. Et surtout, il a pris la mer et il est allé en Crète pour se battre victorieusement contre le Minotaure, cet être étrange à la fois homme et taureau, dans le labyrinthe. Par sa force, par ses muscles, Thésée pouvait assommer sans trop de problèmes ce monstre à la fois bovin et humain. Mais c'était dans le labyrinthe, cette construction très complexe dont normalement personne ne pouvait sortir une fois qu'on y était entré et qu'on s'y était un tant soit peu avancé. Les gros muscles de Thésée n'auraient pas suffi. Thésée a eu de la chance, grâce à l'intelligence et à l'amour de la jeune Ariane, la fille du roi de Crète. Il a pu sortir du labyrinthe où était enfermé le Minotaure. C'est l'histoire bien connue du fil d'Ariane. Ce fil que Thésée a déroulé en avançant dans le labyrinthe jusqu'à ce qu'il tombe sur le Minotaure et le tue, et qu'il n'a eu qu'à rembobiner pour trouver la sortie. Cette expérience lui a appris que le monde était compliqué, difficile, impossible à maîtriser d'un seul regard. Thésée a eu à affronter un monstre double, animal et humain, dans un labyrinthe dont la sortie était introuvable sans une ruse, le fil d'Ariane, et sans l'amour de quelqu'un d'autre, pas tout seul. Ce labyrinthe était à l'image de ce qu'est le monde pour les humains. Une réalité inextricable, difficile à saisir, sans repère fixe, où on va et on vient, où on ne cesse d'être ballotté entre un chemin puis un autre. Il fallait de la ruse pour s'en sortir et avoir l'appui de quelqu'un. Mais Thésée a oublié tout cela. Il n'a pas bien appris la leçon. Ou plutôt, il est devenu comme le Minotaure ou comme le labyrinthe, un être double, indécis, confus, labyrinthique. Sans Ariane, il a perdu le fil. Thésée a juré un amour perpétuel à la belle Ariane qui lui a sauvé la vie. Mais au cours du voyage de retour vers la Grèce, il a tout simplement oublié Ariane. Thésée et Ariane font escale sur l'île de Naxos. Ariane dort sur la plage. Thésée l'oublie et il s'en va sans elle vers Athènes. Ariane pleure. Et Thésée, décidément oublieux, oublie de hisser une voile blanche sur son navire, comme son père, le roi d'Athènes, le lui avait demandé au départ. Le bateau avait une voile noire quand il a quitté Athènes pour la Crète, car il y avait peu de chances que Thésée revienne vivant de son combat avec le Minotaure dans le labyrinthe. Mais son père lui a demandé de mettre une voile blanche, si jamais il était victorieux. Son vieux père guette de loin le retour du bateau. Il voit surgir au large une voile funèbre, toute noire. Pensant que son fils est mort là-bas, en Crète, pensant qu'il a été vaincu par le Minotaure, le père se tue en se jetant dans la mer. Thésée revient à Athènes, à la fois en triomphateur et en fils affligé. Son père, le roi d'Athènes, est mort à cause de lui, de son oubli. Thésée devient à son tour roi d'Athènes. Ses oublis ne l'ont pas empêché d'être un très grand roi, dit-on. D'abord, il passe pour être le véritable fondateur de la cité d'Athènes. Il a fait de la grande politique. Il a réuni les différentes bourgades du pays et en a fait une seule cité, une véritable unité politique. Athènes, grâce à Thésée, est devenu un vaste ensemble territorial qui réunissait à la fois la ville, la campagne et ses villages et le bord de mer dans une belle harmonie physique, humaine, religieuse et politique, une cité unie. Thésée a aussi créé les institutions équilibrées, stables et justes qui permettent à cette grande unité de vivre, de prospérer. Il était même parfois considéré, lui, le roi, comme le champion de la démocratie athénienne. Face à un roi étranger, tyrannique et menaçant, qui voulait le contraindre et lui faire la guerre, Thésée aurait dit fièrement
« Rien n'est plus ennemi d'une cité qu'un tyran. D'abord, parce qu'avec un tyran, il n'y a pas de loi commune. Un seul homme a le pouvoir et fait de la loi sa chose à lui. Et il n'y a plus aucune équité. Quand il y a des lois écrites, l'homme démuni et le riche ont droit à une justice égale. Les démunis ont la possibilité de s'en prendre aux fortunés avec les mêmes mots. si on parle mal d'eux. Le petit l'emporte sur le grand, s'il a le droit pour lui. Quand le peuple a l'autorité sur un pays, il se réjouit de pouvoir compter sur de jeunes habitants. Le roi a cela en horreur. Il tue les meilleurs, ceux dont il pense qu'ils réfléchissent, car il tremble pour son pouvoir tyrannique. Comment une cité pourrait-elle rester forte si, comme l'épi dans une prairie de printemps, on extirpe la bravoure et on fauche la jeunesse?
Un poète, auteur de tragédie, Euripide, a fait prononcer cet improbable éloge de la démocratie par le roi mythique Thésée. C'est totalement idéalisé, totalement anachronique. Mais ça veut dire qu'on a longtemps considéré que Thésée était le père de tout ce qui était bien à Athènes.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Nous sommes des orages contre lesquels tu ne peux rien. Des créatures sauvages, des animaux anciens. Nous sommes des chiennes, jamais couchées. La rage aux dents, cœur combattant. Nous sommes des reines, jamais brisées. Le poing en l'air, femme de fer. Nous sommes des tornades que tu ne peux pas éviter. Une grande parade, une horde énervée. Nous sommes des louves toutes canines, au drapeau rouge sur la poitrine. Nous sommes des mères amères de larmes et de sueur. On prend le charme. Fleurs du Ténéré, nous sommes des chattes, fauves nouvelles, si délicates, armées, rebelles. Nous sommes si fortes, même le corps frêle quand on s'emporte. Des étincelles, nous sommes des avalanches, prêtes à te submerger. Et quand tu nous déclenches, rien ne peut nous calmer. Nous sommes les maillons d'une chaîne invincible, nous sommes des. Jamais contre les hommes, mais contre des idées. 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 Jamais contre les hommes. Amazon.
Pierre Judet de la Combe parle de Thésée, le créateur de la démocratie athénienne.
Thésée défend sa patrie. Il combat vaillamment les envahisseurs. Il faudrait dire surtout les envahisseuses. Il a dû faire une guerre acharnée contre les Amazones, ces femmes guerrières venues de l'Est, de grandes cavalières qui n'arrêtaient pas de mettre en déroute des armées d'hommes. Ces Amazones étaient venues en masse attaquer Athènes. Elles étaient entrées dans le territoire de la ville et avaient établi leur camp juste en face de l'acropole, juste en face de la citadelle d'Athènes et du temple d'Athéna. Face à la cité dirigée par un homme, Thésée, et défendue par des hommes, les Amazones ont établi une puissante cité des femmes qu'elles avaient ceinte de murailles sur la colline appelée l'Aréopage, le mont d'Arès. Parce que sur cette colline, les Amazones avaient fait un grand sacrifice à ce dieu de la guerre. Arès. Elles étaient plus que menaçantes. Mais Thésée les a vaincues. Le combat a été très rude et les Athéniens ont pendant des siècles rendu hommage à la bravoure des Amazones par plusieurs fêtes rituelles et plusieurs monuments. L'irruption hyper violente des Amazones sur le territoire d'Athènes a été expliquée de beaucoup de façons par les auteurs grecs anciens. Visiblement, ils étaient très embarrassés. Cette histoire mêle étroitement amour et politique, comme d'habitude chez Thésée. Thésée, nous dit-on, avait conduit une expédition chez les Amazones, très loin vers le nord-est, sur les bords de la mer Noire. Peut-être accompagnait-il le grand Héraclès dans cette aventure. Il s'agissait de vaincre cette population libre, mouvante, indomptée, différente, les Amazones. Enfin, on ne sait pas trop bien. Mais une surprise arriva. La reine des Amazones, Antiope, ou Hippolyte, le nom varie, tomba amoureuse de Thésée. Ça, c'est la version gentille, courtoise. Peut-être que Thésée l'enleva de force. Thésée partit à Athènes avec la reine Amazone et eut avec elle un enfant, un fils appelé Hippolyte, le délieur de chevaux. Ce fils va très bientôt nous intéresser, car son histoire est incroyable. Une tradition dit que les Amazones étaient furieuses que Thésée ait enlevé leur reine. Elles se précipitèrent vers Athènes pour y faire la guerre. Elles furent vaincues. On dit parfois qu'Antiope, l'ancienne reine des Amazones, combattit aux côtés de Thésée contre ses anciennes amies. Mais il y a d'autres légendes. On dit qu'après son expédition près de la mer Noire, Thésée repartit pour Athènes, qu'il y épousa Antiope, lui fit un fils. Mais on dit qu'il se lassa de ce mariage. Il épousa une autre femme qui venait cette fois non pas du nord lointain de la mer Noire, mais du sud, de l'île de Crète. Il s'agissait de Phèdre, la Crétoise, la sœur d'Ariane, la fille du roi Minos et de Pasiphae. Athènes, avec les amours fébriles et successives de Thésée, étendait son influence sur le monde, vers le nord et vers le sud. C'est plus que bizarre quand même, ce mariage avec Phèdre, princesse de Crète. Thésée avait dû laisser en Crète un très mauvais souvenir. Il avait rendu tellement furieux le père d'Ariane, le roi Minos, en lui tuant son Minotaure et en lui enlevant sa fille Ariane. Il avait tellement maltraité Ariane qu'il a abandonné sur une plage. Comment Thésée a-t-il pu épouser une fille de cette famille? C'est difficile à comprendre. Comment a-t-il pu séduire Phèdre, la sœur d'Ariane? À quelle occasion? On ne sait pas. Les mythes ne sont pas toujours très complets, très cohérents. En fait, les mythes ne cherchent même pas à l'être cohérents. Le mythe de Thésée ne se donne même pas la peine d'expliquer les raisons de ce mariage avec Phèdre. En fait, il s'en fiche complètement. On n'est pas dans une série télé où les épisodes sont censés se suivre. L'important pour le mythe est le résultat, la nouvelle situation, la surprise qu'elle crée. Thésée a une nouvelle femme, Phèdre, il lui fait des enfants et ça va barder. Antiope, l'Amazone, la femme d'avant, est furieuse. Ce qui compte, c'est l'opposition entre les deux femmes. Et de fait, selon certaines versions, Antiope veut empêcher ce mariage avec Phèdre, la nouvelle. Elle lance une guerre contre Athènes. Elle entre avec ses troupes dans le temple de la cérémonie et se fait tuer. Parfois, dit-on, elle meurt des mains de Thésée lui-même, son ex, charmant homme. Parfois, version soft, on dit que l'Amazone Antiope mourut, tout simplement, et que ce n'est qu'après que Thésée épousa Phèdre. Nous avons maintenant tous les éléments qui vont faire une grande histoire émouvante qui a fasciné les Grecs. La terrible histoire de Phèdre, d'Hippolyte et de Thésée. Cette histoire a captivé les poètes, auteurs de tragédies, Sophocle et Euripide. Elle a fasciné le poète et philosophe latin Sénèque et chez nous les tragédiens du XVIIe siècle et d'abord Jean Racine. D'un côté, on a un homme mûr, glorieux, un grand roi content de soi et coureur de femmes, toujours à la recherche d'un exploit guerrier et d'une conquête plus ou moins amoureuse, Thésée, un insatiable. Thésée, c'est l'homme qui se prend pour Zeus. Comme Zeus, il gouverne. Il pose des lois strictes, rationnelles. Mais il est toujours en excès, en débordement d'énergie, sans limite. C'est comme ça qu'il est puissant. Mais c'est un mortel, ce n'est pas un dieu. Et il ne va pas tenir le choc. Ses femmes, ses rivaux, ne seront pas toujours tendres avec lui. Et il sera un peu crétin. De l'autre côté, en face, on a une jeune et magnifique épouse, Phèdre, petite fille par sa mère Pasiphae, du dieu Soleil. Elle porte son origine solaire dans son nom, Phaedra, la lumineuse, l'éclatante. Une femme qui n'a peur de rien. Une femme intellectuelle, lucide et aux sentiments ravageurs. Un peu une Médée, mais en moins cruelle quand même. Mais faudrait faire gaffe. Et enfin, entre les deux, Il y a le fils de l'Amazone et de Thésée, le jeune et beau Hippolyte, homme de chevaux, de chasse, de sport, toujours à courir les bois avec la force et la grâce qu'il tient de sa mère Amazone. Un grand naïf, qui contrairement à son père Thésée n'a rien vu du monde. Mais c'est aussi un borné, fermé sur lui-même, un fanatique, qui éprouve une haine féroce pour l'amour. Il veut férocement ne désirer personne et rester pur à jamais. C'est vrai que son père, le serial lover, l'amoureux insatiable et changeant, n'est pas un modèle très excitant. Thésée a engendré son strict contraire. C'est détonnant. Thésée, en homme qui prétend connaître les femmes, se dit que sa nouvelle épouse, Phèdre, va mal accepter le fils de son ex, Hippolyte, le fils de l'Amazone. Il envoie donc l'enfant Hippolyte aller se faire éduquer ailleurs, loin d'Athènes. Il l'envoie dans la petite ville de Trézène, là où lui-même Thésée a passé toute son enfance. Phèdre, elle, pourra régner à Athènes et lui faire des enfants en paix. Thésée est content. Il a bien organisé ses femmes et sa progéniture, en homme grec bien rationnel. Mais voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Un jour, le jeune et charmant Hippolyte quitte sa ville de Trézène et se rend à Athènes pour une cérémonie religieuse. La jeune et belle Phèdre, pour la première fois, le voit. Et c'est le choc immense, enfin pour Phèdre. Un trouble énorme la prend. Elle est amoureuse du fils de son mari, amoureuse de son beau-fils. Un amour coupable, à la fois adultère et incestueux. La catastrophe.
Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étranger et brûlé. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables.
C'est ce que, des siècles après l'événement, le poète Jean Racine fait dire en 1677 à Phèdre, foudroyé par l'amour, dans sa tragédie « Phèdre et Hippolyte ».
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Stranger came from. Where this stranger came from. She's calling on the
Pierre Judet de la Combe parle de Phèdre et d'Hippolyte. Que faire d'un amour non voulu ?
Qui est Phèdre ? Je pense que c'est une...
Dominique Blanc.
Gigantesque amoureuse. Amoureuse majuscule. Et c'est comme ça qu'elle est intéressante à défendre. Elle est issue à la fois de l'obscurité et de la lumière. Phèdre, ça veut dire la brillante. Et pourtant, c'est quelqu'un qu'on va voir arriver sur scène dans une lumière crépusculaire et qui finira de la même façon.
Moi, elle m'a très certainement appris à aimer. Ça, c'est sûr.
C'est-à-dire qu'avant Phèdre, vous n'aimiez pas pareil qu'après Phèdre.
Oui, je pense qu'elle a une soif d'absolu dans lequel moi, je me suis reconnue tout entière, mais développée encore plus. Alors ça, je sais pas si ça aide pour vivre, mais c'est pas commode.
Le pire arrive. Quelques temps après, Thésée et Phèdre doivent quitter Athènes et s'exiler dans la ville de Trézène, où se trouve Hippolyte. Des troubles politiques les contraignent à l'exil. Thésée avait massacré des cousins qui risquaient de lui porter ombrage. Pour être purifié de ce crime, il doit s'éloigner une année. Et pire encore, Thésée laisse sa femme Phèdre seule à Trézène avec son fils Hippolyte. Lui, il s'en va voir un ami ou va faire une plongée dans les enfers avec cet ami, c'est selon. Phèdre est laissé seul face à Hippolyte. Le poète tragique Sophocle a écrit une tragédie sur leur histoire et l'a montrée à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais cette pièce s'est perdue. Son grand rival Euripide a écrit et joué deux tragédies sur Hippolyte et Phèdre. La première s'appelait Hippolyte voilé, la seconde Hippolyte porte-couronne. La première s'est perdue. Heureusement, nous avons la seconde. Elle est saisissante. Euripide, visiblement, a essayé plusieurs explications de l'amour incestueux qui porte Phèdre vers son beau-fils Hippolyte. Dans la première pièce, il semble, d'après les résumés que nous avons, que Phèdre en avait assez des tromperies de son mari Thésée et qu'elle ait voulu le tromper de la manière qui lui ferait le plus mal avec son fils. En plus, ce fils était très beau gosse. Dans la pièce que, par chance, nous pouvons encore lire aujourd'hui, Hippolyte porte couronne, c'est beaucoup plus intéressant. Il s'agit d'une rivalité féroce entre deux divinités qui se haïssent. Aphrodite, la déesse de l'amour, la Vénus des Romains, et la toujours chaste et vierge, la chasseresse Artémis, que les Romains appelaient Diane. Aphrodite va obliger la pauvre Phèdre à devenir follement amoureuse de son beau-fils, Hippolyte. Il s'agit d'une vengeance de la déesse, pas contre Phèdre, mais contre ce blanc-bec, qui passe son temps à refuser l'amour. Le jeune et bel Hippolyte vivait dans une dévotion passionnée, exclusive pour la très chaste Artémis. Il ne se consacrait qu'à elle. Il chassait avec elle dans les forêts, dans les collines. Comme Artémis, il se voulait absolument pur. Il refusait toute forme d'amour, de désir. Il méprisait Aphrodite. Et sans faire de détails, toutes les femmes, qui étaient toutes des menaces contre son intégrité, contre sa pureté. L'amour homosexuel ne le tentait pas non plus, car c'était de l'amour. La déesse de l'amour, du désir, Aphrodite, va le lui faire payer abominablement. Elle est très jalouse et furieuse. Elle n'a aucune honte. Les dieux sont comme ça, jaloux, comme nous, les mortels. Aphrodite paraît sur la scène au tout début de cette pièce, Hippolyte porte couronne. Elle commence par dire qui elle est. Aphrodite se donne le nom de Cypris, car elle est née à Chypre. C'est là que, sublime et radieuse, elle est sortie des eaux de la mer. Puis Aphrodite rappelle sa puissance.
Je suis partout chez les mortels. Personne n'ignore mon nom. Et c'est pareil dans le ciel. Je suis la déesse qu'on appelle Cypris. Entre la mer Noire et les bornes de l'Atlantique, tous les habitants du monde qui voient la lumière du soleil, s'ils vénèrent ma puissance, je les respecte et je les abats s'ils me traitent de haut. Et oui, il y a cela aussi dans la race des dieux. Nous adorons les hommages que nous rendent les humains.
Puis la déesse présente l'histoire qui va être montrée sur le théâtre. L'histoire d'Hippolyte et de Phèdre. Elle commence par dire pourquoi elle en veut à mort au pur et chaste Hippolyte.
Je vais vite montrer que je dis vrai. Le fils de Thésée, l'enfant de l'Amazone. Cet Hippolyte qui a été élevé par Pythéus, un homme pur, est le seul citoyen de ce pays de Trézène à raconter que je suis la pire des divinités. Il refuse le sexe et ne veut pas toucher au mariage. C'est la sœur d'Apollon, Artémis, la fille de Zeus, qu'il vénère. Il en fait la plus grande des divinités. Dans la verte forêt, il ne quitte pas cette vierge. Avec ses chiens rapides, il élimine les bêtes sauvages. Il s'est trouvé une compagnie plus haute que celle des mortels. De cette préférence, je ne suis pas jalouse. Pourquoi devrais-je? Mais de ses manquements à mon égard, je punirai Hippolyte aujourd'hui même.
Le stratagème d'Aphrodite est tordu et cruel. Elle a rendu Phèdre amoureuse d'Hippolyte. Phèdre, femme vertueuse, sait que cet amour est coupable, monstrueux. Phèdre est malade, se meurt, torturée par la maladie qu'est cette passion. Elle ne l'a dit à personne. Mais Aphrodite s'arrangera pour que Phèdre meure de cette maladie et que Thésée accuse son fils de cette mort. Ce sera compliqué et affreux. Pour que le stratagème réussisse, Phèdre devra mourir. Aphrodite n'a rien contre elle, mais cette mort sera nécessaire pour qu'Hippolyte paye son mépris hargneux et borné de l'amour et d'Aphrodite. Après tout, les dieux ont bien le droit de se faire plaisir, ils ne sont pas à une mort près.
Phèdre, elle, aura la gloire, mais n'en mourra pas moins. Ce n'est pas la considération de son malheur qui m'empêchera d'imposer à mes ennemis un châtiment s'il doit me faire grand plaisir.
Hippolyte arrive. Il est tout heureux après une bonne chasse. Il dépose une couronne sur la statue d'Artémis. Un serviteur lui dit de ne surtout pas oublier de rendre hommage aussi à Aphrodite. Hippolyte le prend de haut.
Comment se fait-il que tu n'adresses pas la parole à une divinité vénérable?
À qui? Veille à ce que ta bouche ne s'égare pas.
Celle-là, Aphrodite la Cyprienne, qui est près des portes.
Étant chaste, je la salue de loin.
Elle est pourtant auguste et remarquable pour les mortels.
Aucun des dieux qu'on honore la nuit ne me plaît.
Il faut honorer les divinités, petit.
Pour les dieux comme pour les hommes, chacun s'intéresse à ce qui lui correspond.
Pour Hippolyte, on peut choisir ses dieux. Le serviteur est désolé. Il espère que les dieux et d'abord Aphrodite seront plus raisonnables qu'Hippolyte.
Maîtresse Aphrodite, il faut pardonner quand celui dont le cœur est violent par sa jeunesse te dit des insolences, fait semblant de ne pas l'entendre. Les dieux doivent être plus sensés que les mortels.
Mais Aphrodite ne sera pas raisonnable. Elle ira jusqu'au bout de sa haine contre Hippolyte, puisque ça lui fait plaisir. D'abord, elle va faire que Phèdre, malade, torturée, délirante à cause de sa passion, ne puisse pas toujours tenir sa langue. Aphrodite va pousser Phèdre à avouer son amour à sa nourrice, qui s'inquiète de voir sa Phèdre chérie dépérir. Phèdre ne se retient plus. Elle avoue que sa maladie, c'est l'amour. Et elle avoue qu'elle aime son beau-fils Hippolyte, le fils de Thésée de l'Amazone. Enfin, elle s'arrange pour que ce nom Hippolyte soit prononcé par sa nourrice. La nourrice est horrifiée.
Phèdre.
Qu'est-ce qu'on appelle aimer chez les humains?
La nourrice.
C'est ce qu'il y a de plus agréable, ma fille. Et en même temps de très douloureux.
Moi, je n'en aurais goûté que l'une des facettes.
Que dis-tu? Tu aimes mon enfant? Quel homme?
Qu'importe son nom. L'homme né de l'Amazone.
Tu veux parler d'Hippolyte?
C'est de ta bouche que tu l'as entendu, pas de la mienne.
Puis Phèdre, qui tient absolument à se contrôler, raisonne. Sa souffrance ne lui a pas ôté la capacité de réfléchir. Elle calcule. Elle sait que cet amour est mauvais, mais elle ne voit pas comment s'en débarrasser. Il ne lui reste qu'un seul moyen, se tuer. Phèdre se sait condamné. Si elle cède à son désir, elle sera traitée comme une souillure, une saleté, car elle est femme. Les hommes, eux, peuvent se laisser aller à leur désir. Mieux vaut mourir. Phèdre est un personnage étonnant. C'est Aphrodite elle-même qui l'a rendue amoureuse. Phèdre n'est pour la déesse qu'une pièce, qu'un rouage dans un jeu affreux destiné à humilier. Phèdre n'a aucune liberté, aucune marge de manœuvre dans son destin. Aphrodite décide de tout. Et cependant, Phèdre raisonne comme si elle pouvait décider, comme si elle pouvait avoir encore la maîtrise de la situation. La réalité, à savoir la violence de son amour, lui échappe. Mais elle examine méthodiquement toutes les possibilités humaines qui sont à sa disposition, de manière à sauver sa liberté et son honneur. En fait, la tragédie est une machine extraordinaire. Plus les dieux sont méchants, tout-puissants, plus ils imposent leur volonté aux humains qui ne peuvent pas s'opposer à eux. Et plus l'intelligence, la liberté d'esprit, l'habileté des humains sont excitées, mises en valeur, tellement elles sont provoquées par ce qui arrive. Les dieux gagnent, mais les humains ont eu, grâce à la dureté des dieux, l'occasion de déployer tous leurs talents.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
C'est parce que ton épaule à mon épaule, ta bouche à mes cheveux et ta main sur mon cou. C'est parce que dans mes reins, quand ton souffle me frôle, c'est parce que tes mains, c'est parce que joue à joue. C'est parce qu'au matin, c'est parce qu'à la nuit, tu me dis viens, je viens, tu souris, je souris. C'est parce qu'ici ou là, dans un autre pays, pourvu que tu y sois, c'est toujours mon pays. C'est parce que je t'aime que je préfère m'en aller. C'est mieux, bien mieux de se quitter avant que ne meure le temps d'aimer. C'est parce que j'ai peur de voir s'endeuiller les minutes, les heures, les secondes passées. C'est parce que je sais qu'il faut un presque rien pour défaire une nuit et se perdre au matin. Je ne laisserai pas pencher sur notre lit ni l'ombre d'un regret, ni l'ombre de l'ennui. Je ne laisserai pas mourir au fil des jours ce qui fut toi et moi, ce qui fut notre amour, pour qu'il ne soit jamais emporté par le temps. Je l'emporte moi-même, il restera vivant. Oh, laisse-moi, si je t'aime, mais je préfère m'en aller. C'est mieux, tu sais, de se quitter avant que ne meure le temps. J'en ai vu comme nous qui allaient à pas lents et portaient leur amour comme on porte un enfant. J'en ai vu comme nous qui allaient à pas lents et tombaient à genoux dans le soir finissant. Je les ai retrouvés furieux et combattants comme deux loups blessés. Que sont-ils maintenant? Ça, je ne veux pas. Je t'aime. Je ne veux pas nous déchirer. C'est mieux, crois-moi, de nous quitter avant.
Pierre Judet de Lacombe parle de Phèdre et d'Hippolyte. Quand les dieux mènent la danse.
Il y avait beaucoup de viscères dans la Phèdre de Sénèque. Il y avait beaucoup de mythologie dans la Phèdre, sans doute, de Sophocle que nous avons perdue, et celle d'Euripide.
Patrick Dandré, professeur de littérature française.
Racine fait un mélange des deux, et entre, disons, l'en-bas viscéral qui était chez Sénèque, et puis l'en-haut cérébral, peut-être, qui était chez Euripide et tout de vertu, il y a cette position intermédiaire qui est que Phèdre est humaine et trop humaine.
La nourrice veut délivrer Phèdre de sa souffrance. Elle propose à Phèdre de composer un philtre d'amour. La souffrance deviendra plaisir. Phèdre chancelle. La nourrice dit qu'elle va trouver Hippolyte, le jeune vertueux, pour lui soutirer une boucle de cheveux ou un morceau de vêtement. En fait, la nourrice dit tout à Hippolyte. Elle lui dit que Phèdre est amoureuse de lui. Elle a cru qu'elle pouvait faire fléchir par ses paroles, puisque l'amour est, selon elle, la chose la plus naturelle, la plus répandue au monde. Hippolyte est horrifié, éberlué, révolté. Pour lui, c'est ignoble. Il est fou furieux. Mais il est coincé. Il a juré à la nourrice, par un serment solennel, qu'il ne répétera pas ce qu'elle lui dit. Il ne peut pas faire connaître la honte qu'il ressent. Son refus de Phèdre est total. Il relève du dégoût. C'est la femme de son père, et c'est une femme. C'est-à-dire ce qu'il déteste le plus. Il vitupère.
Ô Zeus, pourquoi as-tu installé sous la lumière solaire les femmes, fléau déloyal pour les humains? Si tu voulais propager l'espèce mortelle, il ne fallait pas fournir un moyen venant des femmes. Mais c'est en déposant dans tes temples de l'or, de l'argent ou un poids de bronze que les mortels devraient acheter des semences d'enfants, chacun selon la valeur du prix, et vivre dans leur maison libre à l'écart du sexe féminin.
Le jeune est beau et très vertueux Hippolyte, n'y va pas de main morte dans sa haine des femmes.
Mais je hais la femme intelligente. Puissais-je ne jamais avoir chez moi une femme qui réfléchisse plus qu'il ne convient à la femme? La perversité, Aphrodite, la plante plus profond chez les femmes intelligentes. La femme sans habileté est écartée de la perte de sens par sa courte vue.
Phèdre est effondré.
Malheureux est le sort, misérable est la destinée des femmes. Quels moyens avons-nous, quels mots pour nous délivrer des malheurs une fois que nous sommes à terre? Nous avons rencontré le châtiment, ô terre, ô lumière.
Phèdre est décidé à mourir, il n'y a plus d'issue. Mais elle va se venger du mépris qu'Hippolyte lui envoie à la figure, de cette vertu dont il est si fier.
Aphrodite cause ma perte. En quittant la vie aujourd'hui, je lui ferai plaisir. Un amour amer m'a vaincu. Mais en mourant, je créerai le malheur d'un autre, afin qu'il apprenne à ne pas se montrer hautain devant mon malheur. Il apprendra à être plus sage en partageant cette maladie qui est la mienne.
Phèdre va se pendre. Mais avant, elle va écrire une lettre sur une tablette. Dans cette lettre destinée à son mari Thésée, elle affirme qu'Hippolyte a essayé de la violer et que c'est pour ça qu'elle se tue. C'est un mensonge énorme. Ce mensonge fait son effet. Thésée, le mari de Phèdre, le père d'Hippolyte, rentre. On ne sait pas trop d'où. Mais il s'est couronné, il est tout joyeux de rentrer chez lui. Il apprend la mort de Phèdre, voit son cadavre et découvre la lettre. Un tsunami de colère, de haine contre son fils faussement accusé le submerge. Il le maudit. Pire que ça, il demande au dieu Poséidon, qui est son père, de réaliser l'un des trois vœux que le dieu lui a offert. Il lui demande d'anéantir son fils. Hippolyte, affolé par les cris qu'il entend, accourt. Son père l'écoute à peine. Hippolyte proteste, prétend qu'il n'y a pas plus vertueux que lui. Thésée ne le croit pas. Le cadavre de Phèdre et la lettre sont des preuves suffisantes pour accuser son fils. Thésée bannit son fils du pays, mais en fait, il l'a envoyé à la mort. Accablé, calomnié, Hippolyte quitte tristement la ville de Trézène. Il s'en va avec son char le long de la mer. Et là, le châtiment arrive. Poséidon a bien écouté le vœu lancé par Thésée. Il le réalise. Contre l'attelage d'Hippolyte, il lance, sorti de l'écume de la mer, un immense taureau. Jean Racine, très bon connaisseur de la pièce d'Euripide, dont il a repris et traduit plusieurs passages pour écrire sa tragédie Phèdre et Hippolyte, donne le récit le plus impressionnant de la fin horrible d'Hippolyte, emporté par ses chevaux déchiquetés. Un serviteur raconte la scène à Thésée.
À peine nous sortions des portes de Trézène, il était sur son char. Ses gardes affligés imitait son silence autour de lui rangé. Il suivait tout pensif le chemin de Mycène. Sa main sur les chevaux laissait flotter les rênes. Ces superbes coursiers qu'on voyait autrefois, pleins d'une ardeur si noble, obéir à sa voix. L'œil morne maintenant et la tête baissée semblait se conformer à sa triste pensée. Un effroyable cri sortit du fond des flots. Désert en ce moment a troublé le repos. Et du sein de la terre une voix formidable répond en gémissant à ce cri redoutable. Jusqu'au fond de nos cœurs, notre sang s'est glacé. Des coursiers attentifs, le crin s'est hérissé. Cependant sur le dos de la plaine liquide s'élève à gros bouillons une montagne humide. L'onde approche, se brise et vomit à nos yeux, parmi des flots d'écume, un monstre furieux. Son front large est armé de cornes menaçantes, tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes. Indomptable taureau, dragon impétueux, sa croupe se recourbe en replis tortueux. Ses longs mugissements font trembler le rivage, le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage. La terre s'en émeut, l'air en est infecté. Le flot qui l'apporta recule épouvanté. Tout fuit.
Hippolyte affronte le monstre, le blesse. La bête tombe devant les chevaux, qui s'affolent. Il court, à tort et à travers. Le char se disloque. Hippolyte est traîné parmi les rochers. Le messager continue son récit.
À travers les rochers, la peur les précipite. L'essieu crie et se rompt. L'intrépide Hippolyte voit voler en éclats tout son char fracassé. Dans les rênes lui-même, il tombe embarrassé. Excusez ma douleur, cette image cruelle sera pour moi de pleurs une source éternelle. J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils, traîné par les chevaux que sa main a nourris. Il veut les rappeler et sa voix les effraye. Il court, tout son corps n'est bientôt qu'une plaie.
Le corps disloqué, sanglant, mais encore vivant d'Hippolyte, est amené devant Thésée. Le père finit par apprendre l'innocence de son fils. Il se réconcilie dans les larmes. La déesse Artémis elle-même, qui chérit tant Hippolyte, vient à son chevet dans une scène intense d'amour. Puis, avant que le dernier souffle n'emporte le mortel qu'elle aimait, la déesse s'en va. Une divinité ne peut côtoyer un mort. Mais, avant de partir, elle promet qu'elle rendra la pareille à sa grande rivale, Aphrodite. Elle fera périr l'un de ses adorateurs. Pour venger Hippolyte, ce sera une autre histoire. Les dieux, décidément, n'arrêtent pas.
Patrice Chéreau, metteur en scène.
Phèdre, c'est une pièce hallucinante sur le désir et sur le sentiment de culpabilité qui est lié au désir, sur la honte du désir, sur le crime de désirer, sur le crime de... Et ce désir, en plus, est exprimé magnifiquement parce que c'est un vrai désir physique, une vraie dépendance physique. Cette femme qui a un destin magnifique et qui se croit criminelle, alors qu'elle ne l'est pas.
Phèdre a donc fait une accusation mensongère de tentative de viol. Ce sujet est, comme vous pouvez l'imaginer, plus que délicat. Est-ce que Euripide veut dire qu'il faut se méfier des accusations de viol faites par des femmes victimes, qui en fait n'en sont pas ? Est-ce qu'il veut remettre en question la parole des femmes ? Sans doute pas. Phèdre, amoureuse malgré elle, a été confrontée à un être, Hippolyte, qui se dit vertueux, mais qui est un homme verrouillé, fermé à tout amour. Hippolyte se croit vertueux parce qu'il ne désire rien, alors que la vertu consiste à contrôler ses désirs et non pas à les nier. Phèdre souhaite qu'on parle de lui comme on parle d'elle, à savoir comme d'un être transgresseur emporté par ses désirs. Phèdre est criminel parce que Hippolyte, aussi odieux soit-il dans ses prétentions à la vertu, lui, le fanatique, le délirant antifemme, est innocent. Mais si Hippolyte est mort, c'est parce que Thésée a cru immédiatement à l'accusation mensongère portée par sa femme Phèdre. Il n'a eu aucun doute, aucune hésitation. Il n'a interrogé personne, n'a fait aucune enquête. Thésée est tellement habitué à traiter violemment les femmes, à les enlever et les forcer, qu'il ne peut que trouver naturel que son fils ait voulu faire comme lui. Ça le confirme dans l'idée que les vertueux ne sont que des hypocrites. Ce qui révolte Thésée, c'est qu'il s'agit de sa femme à lui, de sa chose. Euripide ne fait pas la leçon. Il fait jouer devant nous les folies, les tourments de quatre fantasmes, de quatre manières violentes, d'imposer aux autres son rapport à l'amour, avec, en compétition, un donjon un peu vieux, inlassable et répétitif, à savoir Thésée. Un chaste obsessionnel et frénétique, son jeune fils. Une qui croit qu'en amour, ce qui compte, c'est la réussite, la nourrice. Et souveraine, plus forte que les autres, une victime de l'amour, qui devient bourreau. Phèdre. Phèdre, au moins, sait qu'elle est devenue monstrueuse. Elle est la seule lucide. Et les dieux dans tout ça? En fait, ils s'amusent. Ils prennent prétexte d'une colère légitime pour se faire plaisir en mettant en scène une belle histoire pleine de rebondissements, de coups de théâtre où ils sont maîtres de tout. Mais ils ne savent pas qu'en faisant ainsi, qu'en jouant avec les mortels, ils libèrent des possibilités humaines inouïes, spectaculaires, inattendues et inventives. Phèdre, Hippolyte, Thésée, la nourrice, sont quand même plus intéressants, moins simplistes et moins imprévisibles qu'Aphrodite ou Artémis. Deux divinités figées, bien calées sur leurs principes et qui n'en bougent pas. Les dieux, finalement, sont sommaires. Mais c'est parce que les dieux sont méchants et simplistes que les humains peuvent faire varier à l'infini leurs capacités et devenir plus intéressants que leurs dieux. Il y a quelques jours, je racontais à des enfants dans un théâtre les aventures de Thésée, d'Ariane et du Minotaure pour une de ces petites conférences que Gilberte Saille s'est si bien organisée à Montreuil et à Paris. Un tout petit, tout timide, m'a posé cette question magnifique. Est-ce que ça existe des dieux raisonnables? Eh bien non.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Le Chêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La semaine prochaine, nous retrouverons Electre, la vengeresse. Après le journal, vous retrouverez Ali Badou pour le grand face-à-face.